Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Merci de nous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, plusieurs sujets assez divers et ma première question, elle concerne le monde. Les responsables religieux chrétiens ont publié ce lundi 26 mai un communiqué pour la paix en Israël, à Gaza et en Cisjordanie. Ils réaffirment que les otages doivent être libérés sans condition et que les corps des défunts doivent être remis à leurs familles afin que celles-ci puissent les inhumer dignement. Ils appellent les responsables politiques de tous bords à agir pour une paix réelle et durable. Alors, c'est toujours bien de lire ce genre de communiqué, mais malheureusement, pour être honnête, on finit par avoir du mal à y croire et en tous les cas à croire que ça peut faire bouger les choses. Est-ce que vous, notre pasteur, vous y croyez vraiment à la paix? Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine d'appeler les politiques à la paix?
Comme tous les évêques de France, j'ai reçu, il n'y a pas très très longtemps, une lettre interpellant justement les évêques et s'étonnant de notre silence sur ce sujet. Et j'ai reçu aussi la réponse que Mgr de Moulin-Beaufort, président encore de la Conférence des évêques, a faite à l'auteur de cette lettre pour dire, écoutez, oui, bien sûr, on est extrêmement conscient de la situation et extrêmement sur le dossier, on prépare avec les autres responsables religieux, donc bon, mais voilà ce que vous venez de dire. Je crois que c'est important de le faire. C'est de l'ordre, peut-être sans doute, du symbole, mais tout de même, les responsables politiques engagés dans des décisions qui créent de la violence, de la tension, etc., on ne change pas leur cœur comme ça, on ne change pas leur idéologie comme ça, on ne change pas leur intelligence comme ça. Bon. Et ils sont engagés, ils ne veulent pas perdre la face, ils sont bon, tout ce qu'on veut, bon, très bien. Mais tout de même, ne rien dire et ne rien faire serait évidemment encore pire. Si ça ne convertit pas ceux qui ont les doigts sur les boutons des armes, au moins ça alerte l'opinion publique, ça aide à la former, à faire que les gens se forgent un avis aussi libre et éclairé que possible sur une situation. Et ça, c'est notre responsabilité et notre mission. Après, Gandhi a prouvé dans son combat non violent qu'il pouvait être efficace. Le Christ a prouvé sur la croix que dans sa manière à lui, non violente aussi, il y avait une certaine efficacité, n'est-ce pas? Et donc, dans la foi, nous pensons qu'il y a une vraie fécondité de la prière, de l'engagement, de la dénonciation. La parole est créatrice. Notre parole humaine, elle est à l'image de la parole de Dieu, créatrice de la réalité qu'elle énonce au moment où elle l'énonce. Et donc, parler de paix, dire la paix, etc., etc., eh bien, c'est contribuer activement à cette paix. Et nous croyons cela dans le mystère de la foi, et je crois, pour ma part, que c'est très, très vrai. Et donc, nous devons le faire et continuer de le faire.
Ça veut dire qu'en tant que chrétien, on a aussi la responsabilité de croire en la paix, que la paix est possible et que c'est un combat qui est juste.
Ah ben ça, évidemment, c'est déjà le point de départ. La paix est possible, sinon à quoi bon vivre? La paix est possible parce qu'elle est un don de Dieu et que Dieu donne la paix et veut donner la paix et à nous de l'accueillir. Donc ça suppose une conversion effective des cœurs et des intelligences, des orgueils, des idéologies. Mais même ça, nous savons aussi que c'est possible. Pardon, je complète en disant que la paix, elle passe aussi par la justice. Et donc c'est une vision globale du monde et j'invite les fidèles catholiques qui le souhaitent, à lire et relire les textes récents de François, Laudato aussi, qui dit que tout se tient, aussi bien le respect de la nature que le respect des équilibres des nations, de la justice sociale, etc., qui quand ce n'est pas le cas, sont autant de bombes à retardement pour des situations telles que celles que nous connaissons en ce moment.
Pour que la paix passe par la justice de manière efficace, ça veut dire aussi qu'en tant que chrétien, on doit s'y engager, on doit s'engager dans ces voies-là.
On doit s'engager au service de la paix. Alors on peut le faire si on a une âme de militant à travers des mouvements ou des associations comme Pax Christi, par exemple, mais d'autres choses. Mais si on n'a pas une âme de ce type, on peut le faire d'abord en s'informant, etc., mais aussi en convertissant dans notre propre cœur les racines de la violence dans le monde qui conduit à la guerre. Et donc, en nous inspirant de l'écriture, de l'enseignement de l'Église, et par exemple de Laudato Si ou de Fratelli Tutti, convertir nos façons de vivre pour que nos manières d'être soient source de justice, de partage des richesses, de respect dans le regard des uns sur les autres, y compris entre gens d'origine ethnique, religieuse, etc., différentes. Tout ça imprégné d'évangile est facteur de paix. Et donc, nous avons, nous aussi, à nous convertir personnellement. Évidemment qu'on se sent très impuissant pour dire à Netanyahou d'arrêter de détruire Gaza. Très bien. Mais là où on n'est pas impuissant, c'est à convertir les racines de ce même mal dans nos propres existences, là où nous sommes, dans nos propres vies de famille, dans nos communautés paroissiales ou diocésaines ou autres. C'est les mêmes racines du mal. Alors convertissons-les à notre échelle et ensuite le Seigneur fera le reste. C'est nos 5 pains et 2 poissons mis à la contribution de la construction de la paix dans le monde.
Voilà, et la réponse et la contribution à notre échelle, eh bien, c'est la prière. Alors, on passe à tout autre sujet. Alors que cette interview est diffusée, vous vivez votre toute dernière visite pastorale. Vous êtes en Pays Toy, à Luce et en Pays Toy, après quasiment 2 années pastorales passées à sillonner la Bigorre et les 4 vallées. Dans quel état d'esprit vous êtes à la fin de cet exercice pastoral ?
Admiratif, reconnaissant, admiratif de l'engagement de tous, des prêtres, des fidèles laïcs, de ceux qui sont vraiment au service des communautés paroissiales, des églises qui ouvrent, qui ferment, qui allument, qui nettoient, qui fleurissent, qui animent le chant, la musique des communautés, qui font le caté, qui comptent les sous et qui entoure le curé comme membre d'une équipe d'animation paroissiale, enfin, admiratif de cet engagement de tous, de tous, de tous. Il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de regrets, de nostalgie, etc., etc. Mais il y a de la foi, de l'espérance et la plupart du temps aussi de la charité. Et je suis admiratif de la qualité chrétienne des gens que j'ai croisés depuis décembre 2023, dans cet exercice, en effet, des visites pastorales. La deuxième chose, c'est, après l'admiration, de la reconnaissance. La reconnaissance pour le Seigneur qui suscite la foi, qui suscite ces belles communautés, et puis de la reconnaissance pour la manière dont les uns et les autres m'ont accueilli, fait découvrir leur lieu et leur milieu, leur communauté paroissiale, mais aussi avec fierté, des paysages, des entreprises qui sont sur les paroisses, avec qui il y a des liens, les élus, vraiment beaucoup de reconnaissance pour toutes les personnes rencontrées dans ces visites pastorales, et puis une reconnaissance profonde pour le Seigneur qui met beaucoup de joie dans mon cœur à travers ces rencontres.
Alors quand on vous entend en parler, quand on regarde aussi les épisodes en 6 minutes et 5 secondes sur Bigorre TV, on a l'impression que tout est beau, tout est facile, que tout va bien. En réalité, il faut être honnête, quand on creuse un peu, vous avez parfois découvert des réalités qui étaient plus difficiles, plus laborieuses, peut-être un peu moins pétillantes que dans un autre coin. Est-ce que parfois vous vous êtes dit, peut-être que là, on arrive trop tard, peut-être que là, l'espérance va être un peu plus dure à retrouver.
Alors, l'espérance un peu dure à retrouver, sans doute. Trop tard, jamais. Jamais je me suis dit ça, parce que je crois que c'est contraire, justement, à la vertu d'espérance et à la vertu de foi. Évidemment, je pense que les témoins de la crucifixion ont dû se dire, c'est trop tard. Au soir du Vendredi Saint, mais le dimanche de Pâques leur a donné tort. Donc aujourd'hui, j'inscris ma vie et mon ministère épiscopal dans cette foi-là profondément, et j'invite chacun de nous à le faire aussi, évidemment. Il n'est jamais trop tard. Alors, difficile, bien sûr, il y a des lieux qui sont plus pauvres que d'autres, bien sûr, il y a des lieux qui sont plus blessés que d'autres aussi, par de l'incompréhension, par de la tristesse. C'est vrai. J'ai aussi, évidemment, découvert tout cela et partagé tout cela. Et je le porte dans mon cœur et dans ma prière. Mais trop tard, jamais, 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 j'ai eu le sentiment qu'il était trop tard.
Alors, ma dernière question pour aujourd'hui, elle est un petit peu liée. Je voudrais qu'on parle de la messe. Et puis, si vous permettez, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Chacun veut la messe près de chez lui. Et on voit tous les week-ends le génie pastoral des curés qui s'investissent dans des calendriers de messe pour contenter le maximum de fidèles chaque week-end. Alors, il y a des messes parsemées dans tout le territoire, les samedis, la messe anticipée du samedi, le dimanche, un petit peu partout. Et puis, parfois, 10, 20, 30 personnes présentes pour la messe. Est-ce que ce n'est pas un petit peu décourageant pour les chrétiens et un peu usant pour les curés? Est-ce que c'est la bonne manière de faire et jusqu'où il faut aller pour ne pas user et décourager tout le monde encore?
Je ne veux pas répondre de manière trop rapide parce que une réponse trop rapide et même pas trop rapide risque de blesser les uns les autres. Les gens sont attachés à ce que la messe soit célébrée chez eux, dans leur église, en proximité, et ils ont raison. Ça a beaucoup de sens et ça fait énormément de bien et ça évangélise en soi, la liturgie évangélise. Bon. Donc en effet, ils ont raison d'être attachés à la messe chez eux. Bien. Ceci posé, il faut hélas faire le constat que dans notre paysage français, il y a énormément d'églises, énormément de toutes petites communautés, de tout petits villages, et que, bon, ça fait des décennies qu'il n'y a plus un curé par commune et par clocher. Bon. Ça fait plus d'un siècle que, à chaque départ de curé ou décès, ou etc., tous les 15 ans, des regroupements de villages sont faits pour faire des ensembles toujours plus grands. Bon, le modèle s'essouffle, arrive au bout du rouleau, et ce n'est plus possible parce qu'il n'y a pas assez de prêtres, mais il n'y a pas assez de chrétiens non plus. Et en effet, vous pointez que souvent, pour au moins les fêtes, la Toussaint, les rameaux parfois, des efforts sont faits, considérables par les prêtres, pour offrir des célébrations eucharistiques le plus possible, au plus près de là où sont les gens. Et ils se retrouvent avec de toutes petites communautés. C'est parce que j'ai failli perdre un des prêtres du diocèse, le dernier que j'ai ordonné, au cours d'un accident de voiture qui aurait pu être très très grave parce que tout simplement il s'est endormi en revenant d'une messe comme celle que vous décrivez, parce que surchargé, parce que la veille au soir il était encore très tard à une réunion à Lourdes et loin de sa paroisse, parce que c'est dans le cadre de son service, bon, de sa mission, parce qu'on veut tenir le plus longtemps possible maximum de services tels qu'on avait l'habitude de les honorer jusqu'à présent, ce n'est plus possible et on va tuer tout le monde. Bon, donc à un moment donné, ben, il faut être raisonnable et regarder les choses en repartant de la source. Et en droit canonique, l'obligation de la messe, elle est le dimanche. Et de la communion, elle est une fois par an. Bon, alors évidemment, c'est mieux de le faire plus souvent que ça. Bon.
Nos auditeurs vont me bondir.
Ben évidemment, ils auront raison de le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut aller à la messe qu'une fois par an et communier ce jour-là. Bon, mais évidemment, je ne dis pas ça. Bon, mais il faut accepter de pouvoir se regrouper avec d'autres pour pouvoir constituer une assemblée qui peut célébrer de manière digne et qui fasse sens. Bon. Il faut pouvoir célébrer au village, mais il faut aussi pouvoir se retrouver avec d'autres pour constituer un corps qui est l'Église, quoi. Et donc, la géographie de l'Église doit s'affranchir de la géographie territoriale française du XIXe siècle. On ne peut plus tenir ce schéma-là. Bon, ben, très bien. Ben, faisons autrement, et c'est ce à quoi on travaille, pour le dynamisme, la vie et le service de tous les fidèles chrétiens, y compris les plus isolés, pour qu'ils ne soient pas abandonnés justement dans leur petit village isolé, parce qu'ils seraient le dernier des chrétiens pratiquants de ce village-là.
Faisons autrement, et bien vous y travaillez, Mgr Mika, avec les conseils qui vous entourent, et vous nous en parlerez la semaine prochaine lors de la prochaine interview. Merci beaucoup, bonne semaine et bonne visite pastorale ici en Pays Teuil.
Merci beaucoup, et nous y travaillons avec tous les fidèles du diocèse qui le veulent bien.
Merci, Monseigneur.